Bien le bonjour à tous et bienvenue, bon matin et bienvenue à l'émission Parole du matin. Hein, comme le Seigneur l'a bien voulu, il a ordonné à un nouveau jour de se lever et ce nouveau jour n'a eu d'autre choix effectivement de se lever. Nous voici réunis donc devant sa parole pour poursuivre notre démarche, si on peut dire, dans ce glorieux évangile, le glorieux évangile qui nous est rapporté par l'apôtre Paul lui-même dans sa lettre aux églises de la Galatie. Pardon. Alors, nous avons vu la dernière fois les versets 1 à 5. Nous reprendrons donc à partir de là où nous avions laissé. Oh, pardon, on va prendre une portion un tout petit peu plus grosse aujourd'hui, un petit peu plus longue. On va aller des versets 6 à 10. Galates, chapitre 1, les versets 6 à 10. Alors, dans les versets précédents, on a vu l'irritation de Paul contre les accusations qui étaient portées contre lui et l'Évangile. Ici, on voit son étonnement. Donc, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Mais voilà ce qui nous est offert ce matin, ce qui est offert à notre méditation aujourd'hui. Dans chacune de ses lettres, l'apôtre Paul fait suivre ses propos introductoires d'une prière. Hein? Bon, généralement, là, il commence par une salutation. Il commence par dire, ben, voici qui je suis, voici avec qui je suis, et je vous salue, vlan, vlan, vlan. Et voilà qu'il suit ensuite par une prière ou par une louange à Dieu. Mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans cette épître. On ne trouve pas de prière. Pour les Galates, on ne trouve pas d'action de grâce, il n'y a pas de compliment que Paul fait à ses lecteurs. Il s'attaque directement à son thème de lettre, il le fait avec une urgence extrême, dirait-on. Hein? Il exprime son étonnement, il est complètement stupéfait. Il exprime son étonnement devant l'inconstance, devant l'instabilité des Galates. Il dénonce les faux enseignants qui les troublent. Et attention, hein, il prononce un anathème. C'est pas petit, ça. C'est une malédiction, ça. Il prononce un anathème solennel sur ceux qui osent tronquer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au verset 6, nous retrouvons l'infidélité des Galates, nous verrons l'activité des faux enseignants et ensuite la réaction de l'apôtre. Verset 6, l'infidélité des Galates. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Se détourner promptement, c'est un beau verbe, vous allez me permettre un petit peu de grec ce matin, là. « Metatithemi ». Qui est traduit par déserter, qui est traduit par détourner, je dis bien, qui veut aussi dire déserter, qui veut dire changer d'allégeance. Le verbe est employé pour un soldat dans l'armée, par exemple, qui se révolte contre son armée ou contre son pays, ou qui déserte. C'est aussi employé pour un homme qui change d'allégeance politique ou philosophique. Dans la philosophie grecque, on appelait un tel homme « hometatémémos », quelqu'un qui a changé d'allégeance. Hein, au Québec, on dirait un « vire-capot ». Ben voilà, l'apôtre Paul est en train de les traiter de « vire-capot », ces Galates-là, en raison du fait qu'ils sont sur le point de se détourner de l'Évangile. Alors, c'est l'accusation que Paul adresse aux Galates, des « vire-capots spirituels », des « déserteurs ». Ils se détournaient de celui qui les avait appelés dans la grâce de Christ pour embrasser, si vous me passez l'expression, un autre évangile. le véritable évangile, dans son essence, c'est celui que Paul appelle, au livre des Actes, chapitre 20, verset 24, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, ben oubliez ça, là, il n'y a pas de bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle d'un Dieu tout en grâce envers des pécheurs non méritants, alors qu'il envoie son Fils mourir pour eux. Dans sa grâce, Dieu nous appelle à lui. Dans sa grâce, il justifie tous ceux qui croient. Comme l'apôtre l'écrira en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, « Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. » En d'autres mots, tout cela est grâce. Rien, strictement rien, n'est dû à nos efforts, à nos mérites, à nos œuvres. Tout dans le salut est attribuable exclusivement à la seule grâce de notre Dieu. Mais voilà que les Galates, qui pourtant avaient reçu cet évangile de grâce, voilà qu'ils se tournent maintenant vers un autre évangile, un évangile d'œuvre. Les faux enseignants, là, on les reconnaîtra ultérieurement comme les judaïsants, dont l'évangile est résumé en Acte 15, verset 1. « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Si vous ne suivez pas les ordonnances, les lois mosaïques, vous ne pouvez être sauvés. » Vous voyez, ils n'étaient pas en train de nier l'impératif de voir, de croire en Christ Jésus pour le salut. Non, ils croyaient effectivement qu'il fallait croire en Jésus pour le salut. Mais, et c'est là où ça se détériore, pour eux autres, ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi ajouter la loi de Moïse. En d'autres mots, il fallait laisser Moïse terminer ce que le Christ avait commencé. Hein? Il fallait que le croyant complète l'œuvre du Christ par sa propre obéissance à la loi de Moïse, par des bonnes œuvres. Bien sûr, Paul, d'aucune façon, ne pouvait tolérer une telle doctrine. Hein? Ajouter des mérites humains aux mérites de Christ, hein? Et ajouter des œuvres humaines à l'œuvre du Christ, c'est tout simplement impensable. C'est blasphématoire. C'est dire au Christ, le travail que tu as fait, c'est pas complet. Tu n'as pas fait ta job complètement. Vous voyez, l'œuvre du Christ, elle est complète et l'évangile du Christ est un évangile de grâce gratuite. Et Paul va encore plus loin en affirmant que cette défection des Galates était tout autant dans leur expérience que dans leur théologie. Les deux vont de pair de toute manière. Hein? Remarquez qu'il ne les accuse non pas de déserter l'évangile de grâce pour un autre évangile, mais de déserter celui qui les a appelés dans sa grâce. Voyez-vous, ils ne sont pas en train de déserter une théorie, ils sont en train de déserter un sauveur qui les a appelés dans sa grâce. Ça, bien-aimé, ça veut dire ceci, c'est que théologie et expérience, là, foi chrétienne et vie chrétienne, ça va de pair. Ça ne se divorce pas. Se détourner de l'évangile de grâce, c'est purement et simplement se détourner du Dieu de la grâce. Alors, que les Galates prennent bien garde. Hein? Eux qui ont bien commencé pourtant, ils ont commencé avec la grâce et voilà maintenant qu'ils ont commencé à se détourner si rapidement. C'est impossible d'abandonner l'Évangile sans abandonner Dieu. C'est ainsi que Paul le réécrit, chapitre 5, verset 4, toujours de cette même lettre aux Galates. Écoutez bien, ce ne sont pas des propos à prendre à la légère. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelait un traitement choc? Ce n'est pas, vous allez perdre quelques récompenses, vous allez être assis dans les bancs arrière, vous allez vous tenir debout dans un coin du ciel. Non, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et ça m'amène à mon deuxième point, à l'activité des faux enseignants, verset 7. Et ils étaient actifs, les faux enseignants. La raison donc pour laquelle les Galates étaient en train de se détourner de celui qui les avait appelés par la grâce, ben cette raison-là, il nous est formulée au verset 7. L'apôtre décrit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile. Des gens qui vous troublent, le verbe tarasso, des gens qui vous secouent, des gens qui vous agitent. Vous voyez, c'est dire que les faux enseignants avaient jeté les églises de la Galatie dans le trouble, dans l'agitation, dans une forme de confusion intellectuelle d'une part, et dans les factions. Il y avait des factions en conflit maintenant dans l'église des Galates. C'est intéressant de noter d'ailleurs qu'au ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, là, qui vraisemblablement a eu lieu tout juste après que Paul eut écrit cette lettre-là aux Galates, ben, ce concile-là utilise les mêmes mots dans son écrit aux églises. Au terme de ses délibérations, hein, acte 15, verset 24, « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé, tarasso, par leur discours et ont ébranlé vos âmes. » Voyez-vous? Tout cela venait de la fausse doctrine. Ouh, la doctrine est donc importante. Tout ça venait de la fausse doctrine. Hein? Il y a des gens qui se plaisent à se gargariser avec une expression bébête qui dit « La doctrine divise, Jésus nous unit ». Ben Jésus est une doctrine lui-même, il nous faut une doctrine juste de la christologie pour savoir à quel Jésus on s'adresse. C'est dire que les faux enseignants donc avaient jeté ce conflit-là chez les Galates. Les judaïsants proposaient un évangile travesti, modifié, un évangile tordu. Donc, il y a deux caractéristiques qui sont claires ici, des faux enseignants, et qui ressortent clairement. Premièrement, ils troublaient l'Église et ils corrompaient l'Évangile. Et les deux vont main dans la main. Diluer l'Évangile, là, ça a comme conséquence de troubler l'Église. C'est impossible d'altérer l'Évangile sans que l'Église en soit d'une quelconque façon affectée, pour la simple raison que l'Église vient à existence par l'Évangile et que l'Église continue son existence, continue à vivre de l'Évangile, sinon ça devient un club social. Vous savez, les plus grands facteurs de trouble dans l'Église, là, aujourd'hui, comme de toute époque d'ailleurs, ce ne sont pas ceux de l'extérieur qui s'opposent à l'Évangile ou qui ridiculisent l'Évangile ou qui persécutent l'Église. Non, non, ce sont ceux de l'intérieur qui tentent de triturer l'Évangile, de changer l'Évangile. Ce sont eux les véritables troublefêtes de l'Église. Et à l'opposé, bien sûr, la seule façon d'être un homme d'Église, c'est d'être un homme de l'Évangile. La meilleure manière de servir l'Église, c'est de croire et de proclamer l'Évangile. Et ça m'amène à mon deuxième point, la réaction de l'apôtre, qui ne restera certainement pas passif devant cela. Oui. Donc, versets 8 à 10, la réaction de l'apôtre en est une d'étonnement. Paul est complètement sidéré et renversé par la situation. Non seulement les Galates sont-ils en train de s'éloigner de l'Évangile, mais, bon, on sent que c'est arrivé vite. C'est arrivé tellement rapidement, voyez. Paul écrira au chapitre 3, verset 1. « Ô Galates dépourvus de sens !» Vous savez, la rectitude politique dans l'Évangile, on ne retrouve pas ça. Hein? Alors, « Ô Galates dépourvus de sens !» ça veut dire insensé. « Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Qui vous a fasciné? Un autre beau verbe dans le grec, hein? Le verbe baskaino. Vous savez ce qui veut dire littéralement le verbe baskaino, qui est traduit ici par fasciné? Ben, il veut dire littéralement ensorcelé. Jeter un sort. Paul de dire, c'est comme si quelqu'un vous avait ensorcelé. C'est comme si quelqu'un vous avait jeté un sort. C'est comme si vous étiez hypnotisé. Et c'est bien la façon de faire de Satan. Lorsqu'il ne peut pas entraîner les chrétiens dans le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de les séduire, hein? Il va tenter de les ensorceler avec une fausse doctrine. Après sa réaction première d'étonnement, l'indignation de Paul se traduit par un prononcé d'anathème. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein? Un prononcé solennel d'anathème, de malédiction, au verset 8 et 9. Écoutez bien. « Mais si nous-mêmes, Paul et son groupe, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le mot anathème se retrouve dans la Septante. La Septante, là, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Et on retrouve le mot pour décrire la malédiction divine sur tout ce qui devait être voué à la destruction. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, l'expression est traduite par « dévoué par interdit ». Vous souvenez-vous l'histoire d'Achan dans Josué chapitre 7, verset 1, il avait conservé des choses qui auraient dû être dévouées par interdit, qui étaient anathèmes. Il avait conservé ces choses-là et ça avait causé énormément de problèmes, n'est-ce pas, à Israël lorsqu'il était allé là dans la bataille de Haï. Enfin, vous pourrez lire l'histoire dans Josué 7. Donc, ce que Paul désire, c'est que ces faux enseignants-là soient placés sous la malédiction divine parce qu'ils troublent l'Église, que le jugement de Dieu, littéralement, leur tombe dessus. Vous me direz, « Ben là, Paul, fais pas tellement dans la dentelle ici. Hein? » Non, en effet, mais la situation exige une correction beaucoup plus virile, n'est-ce pas, que 2-3 coups de Kleenex en disant « Tiens-toi ». Ça exige quelque chose de viril, ça exige une main de fer, ça exige quelque chose de radical. Il faut bien comprendre ici qu'il ne s'agit pas d'un apôtre qui pète les plombs. L'anathème qu'il prononce, c'est un anathème universel, chers amis, c'est-à-dire un anathème qui est approprié à tout enseignant qui tord, qui déforme l'essence de l'Évangile, et c'est d'une clarté cristalline au verset 8 et 9. Mais si nous-mêmes, si moi-même, Paul, je change d'idée puis je vous annonce un autre Évangile, ou si un ange du ciel, hein, l'archange Michel, Gabriel, nommez-les, hein, annonçait un Évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un, quel qu'il soit, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul ici, là, ne fait que s'acquitter de sa responsabilité devant Dieu. Ce qui lui importe, ce n'est pas la rectitude politique qui est en train d'étouffer notre société et où on ne peut plus appeler les choses par leur nom. Hein. On est toujours en train de s'enfarger dans quelque euphémisme que ça puisse être. La rectitude politique, Paul n'en a strictement rien à cirer. Verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Plaire aux hommes, de dire l'apôtre Paul, je m'en contrefous royalement. Ce qui m'importe, c'est de plaire à Dieu. Vous savez, on ne peut pas toujours être populaire lorsqu'on est chrétien. Hein, ce n'est pas deux expressions qui vont toujours ensemble. Je suis chrétien, donc je suis populaire. Surtout pas dans le monde. On ne peut pas appartenir au Christ et ne pas occasionnellement se faire décoiffer, se faire rejeter de temps en temps. On ne peut pas servir deux maîtres. C'est donc à titre de serviteur de Dieu et de son Christ que Paul y va de ses propos d'un radicalisme orthodoxe. J'aime l'expression que j'ai trouvée ici, un radicalisme orthodoxe, parce que le radicalisme, ce n'est pas de facto une tare. Aujourd'hui, les gens, ah, t'es bien trop radical, t'es radical. Oui, oui. Mais écoutez, le radicalisme n'est pas de facto une tare. Le véritable évangile ne s'assied pas entre deux chaises. Le juste milieu, c'est le radicalisme biblique. Paul comprenait fort bien que dans l'enseignement de ces judaïsants-là, c'est la gloire même du Christ qui était en jeu. accepter, vouloir rendre obligatoires les œuvres humaines en complément au service unique et parfait du Christ pour le salut, ce n'était rien de moins que de dénigrer l'œuvre complète du Sauveur. C'était insinuer que le Père n'était pas complètement satisfait de l'œuvre de son Fils et qu'il fallait l'améliorer. En Galates 2:21, l'apôtre écrira « Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Il s'agit donc d'une doctrine cardinale. C'est la santé éternelle de l'âme qui est en jeu ici, voyez-vous. On ne peut simplement pas, c'est-à-dire, on peut avoir des désaccords entre chrétiens, entre églises, entre dénominations évangéliques. On peut avoir des désaccords sur des éléments adiaphoriques, des éléments secondaires comme est-ce qu'on prend du vin à la communion ou est-ce qu'on prend du jus de raisin. On peut avoir des différences de vue là sur notre conception du retour du Seigneur Jésus-Christ, etc., sans que notre salut éternel soit en cause. Mais la doctrine du salut par grâce ne se négocie pas. La doctrine du salut par grâce ne souffre aucune altération de quelque sorte que ce puisse être. C'est une question de salut. De salut. Et l'apôtre Paul se soucie profondément de l'âme des gens. Il était pastoral, hein? Il se soucie profondément de l'âme des gens. En Romains chapitre 9, verset 3, il dit, il déclare vouloir lui-même être anathème si ce faisant, d'autres pourraient être sauvés. Il savait très bien, l'apôtre, que l'évangile du Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un évangile non altéré, un évangile authentique et pur. Et si cet évangile est corrompu, ben il n'est plus cette puissance-là de salut. C'est la seule voie de salut qui vient d'être détournée si on corrompt l'évangile, si on le dilue. Donc, ce matin, la leçon à retenir, c'est qu'il y a combien d'évangiles? Vous avez parfaitement raison. Un seul, oui, je vous ai entendu, il y a un seul évangile. Un seul évangile. On dit souvent « tous les chemins mènent à Rome ». Bon, écoutez, n'allez surtout pas appliquer cela au salut. Paul ne fait aucun quartier à tout enseignant qui altère l'évangile de grâce par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Versets 6 et 7 encore. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas d'autre évangile. Mais il y a du monde, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile du Christ. Chers amis, il y a un seul évangile, et c'est l'évangile que nous retrouvons dans l'Écriture, c'est l'évangile que l'apôtre Paul s'est évertué à proclamer, de même que l'apôtre Pierre et les autres apôtres, et que tous les prédicateurs chrétiens continue de prêcher depuis, les vrais chrétiens. Il est donc de toute première importance de distinguer le véritable évangile des faux évangiles qui pullulent encore aujourd'hui. On n'a qu'à penser à l'évangile de la prospérité qui enseigne que Jésus est la voie vers le gain financier. Si tu veux être riche, tu n'as seulement qu'à venir à Jésus. Il y a l'évangile des valeurs familiales qui enseigne que Jésus est la voie vers une famille heureuse. Bon, certainement qu'une famille est plus heureuse en Jésus, mais l'évangile, ce n'est pas d'abord cela. Il y a l'évangile du soi, ce que j'appellerais l'égo-évangile. Il y a des éco-portraits, aujourd'hui, là. Il y a l'égo-évangile qui enseigne que Jésus est la voie vers un épanouissement personnel. Il y a l'évangile de la tradition religieuse qui enseigne que Jésus est la voie vers la respectabilité. Il y a aussi l'évangile de la moralité qui enseigne que Jésus est la voie pour devenir une bonne personne. Ce qui fait le caractère pervers de ces évangiles, parce qu'il y a de très très bonnes choses là-dedans, mais ce qui fait le caractère pervers de ces évangiles-là, c'est qu'ils offrent des bénéfices. Ils sont centrés sur les bénéfices. C'est bien d'être prospère, c'est bien d'avoir un foyer harmonieux, c'est bien d'avoir un comportement. On n'est pas contre la vertu. Mais lorsque ces choses deviennent pour nous une sorte d'évangile, alors là, il y a un danger de se détourner du véritable évangile. Le théologien Ray Auckland, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, très bon prédicateur au passage, a tenté d'imaginer une église sans l'Évangile. Et il pose la question, qu'est-ce qui pourrait remplacer la centralité de l'Évangile? Qu'est-ce qui pourrait prendre la place de l'Évangile dans un sermon, par exemple? Et il dresse ensuite une liste. Il y en a 8. Un engagement passionné pour la cause pro-vie. Deuxièmement, une consécration aux techniques modernes de management. Troisièmement, une obsession pour la croissance numérique de l'Église. Quatrièmement, un souci démesuré pour l'institution de la famille. Cinquièmement, un appel subtil à un christianisme léger. Vous savez, il y a des bières légères, alors il y aurait ici un christianisme léger. Sixièmement, une culture sympathique et empathique des relations interpersonnelles. Septièmement, une détermination à ramener l'Amérique à ses racines chrétiennes par le biais de la politique. Et huitièmement, une affirmation de l'estime de soi. Bien sûr, il y a des éléments dans tout cela qui sont vraiment, vraiment, mais fortement recommandables, mais qui ne peuvent en eux-mêmes représenter l'Évangile. Il n'y a qu'un seul Évangile, et c'est le salut par la grâce seule, par la foi seule, en l'œuvre unique du Christ Jésus. Et lorsqu'on prêche l'Évangile, c'est ça qu'on doit présenter, c'est cet Évangile-là qu'on doit proclamer. La question en terminant, de quel Évangile vous nourrissez-vous? Et voilà, c'est tout pour ce matin. L'émission vous revient, comme d'habitude, à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous contacter, là, aller sur notre site Internet, vous avez tout ce qu'il vous faut, foifm.com. Vous pouvez nous écrire aussi, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Vous pouvez nous téléphoner, vous avez notre numéro de téléphone sur Internet aussi et notre adresse courriel. Et c'était bon, c'était vraiment bon de vous avoir encore avec moi ce matin. J'espère que vous pouvez dire la même chose. Et bien sûr, je vous invite à être là pour la prochaine. Et d'ici là, bien aimé, soyez ultra bénis. À bientôt.